Radio Okapi. À la présentation du journal, Bibi Mukonkole. Okapi. Les titres de cette édition. Procès Jean-Pierre Bemba. La défense et l'accusation ont présenté leur conclusion finale dans cette affaire. Le point dans ce journal avec notre correspondante à la Haye, Stéphanie Moupa. À Béni, le procès Mamadou Ndala suspendu pour quelques jours. Entre-temps, un autre procès est ouvert, celui concernant les personnes arrêtées et accusées d'avoir participé aux tueries et violences enregistrées dans la région de Béni. Plus de 100 000 habitants privés d'eau potable depuis 6 jours dans la cité de Mulongo, au Katanga. La société civile demande aux autorités provinciales une aide d'urgence. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les juges de la Cour pénale internationale CPI se sont retirés pour délibérer dans l'affaire Jean-Pierre Bemba au terme de 2 jours d'audience au cours desquels la défense et l'accusation ont présenté leur conclusion finale. L'ex-vice-président est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Les détails avec Stéphanie Moupa à la Haye.
D'entrée de jeu, le procureur a dénoncé la barbarie des soldats de Jean-Pierre Bemba, des hommes qui pour l'accusation étaient sous le contrôle effectif de l'accusé. Appelés en renfort par l'ex-président centrafricain d'alors, Ange-Félix Patassé, les soldats de Bemba auraient tué, violé et pillé, selon l'accusation, et le sénateur congolais savait qu'il commettait des crimes horribles, défend le procureur, assurant qu'il aurait pu les empêcher. Avec conviction, la défense a réfuté les accusations du procureur, assurant que les troupes de Bemba avaient été placées sous le contrôle des forces armées centrafricaines. Il n'en était dès lors pas le chef. Pour la défense, qui a dénoncé un procès secret, rappelant que les témoins ont comparu sous pseudonyme tout au long du procès, les hommes du général François Bozizé ont commis les tueries quand les soldats du MLC étaient accueillis en libérateur. La défense a aussi rejeté l'idée que Bemba ait pu, assis dans son salon à Gbadolité, donner des ordres à ses troupes sur place. Pour conclure, les avocats ont demandé l'acquittement en rappelant que de nombreuses troupes étaient en Centrafrique et qu'aucune autre n'a été poursuivie par la Cour. Les juges se sont retirés pour délibérer. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs mois. À la Haye, Stéphanie Moppa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Pendant ce temps à Béni, la cour militaire du Nord Kivu a suspendu pour quelques jours le procès sur l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Le verdict est attendu lundi prochain. Pendant ce temps, la même cour ouvre à Béni toujours un nouveau procès. C'est sur les personnes arrêtées dernièrement et accusées d'avoir participé aux tueries et violences enregistrées dans la région de Béniville et territoire. Une foule nombreuse est venue assister à l'ouverture de ce procès. Sur le banc des accusés également, le colonel Birocho Nzanzu, cet officier des FARDC comparé au même titre que les présumés ADEF. Ils sont tous accusés notamment de crimes de guerre, terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel. Les détails avec vous, Denise Loukesso à Béni.
L'audience de ce jour était consacrée à l'instruction des dossiers. Dans cette première étape, un des prévenus est passé aux aveux d'avoir participé au massacre des civils Angadi, Eringeti, Witia, Mbaou, Kando, Muzambayi et Tubameme entre les mois d'octobre et novembre. Il a par la suite avoué appartenir à un groupe terroriste qui aurait sa base en plein forêt du secteur de Rwenzori, sans toutefois citer les chefs de ce groupe. Ce dernier, qui serait ravitaillé en équipement militaire par le prévenu colonel Birocho, officier militaire des FARDC. La population salue la tenue de ces procès et demande que justice soit rendue afin de punir les vrais auteurs des massacres qui ont coûté la vie à des dizaines de civils en territoire de Béni. Après instruction des dossiers, l'audience a été suspendue et renvoyée à demain vendredi pour les plaidoiries de la partie défenderesse. De Béni, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Des organisations de défense des droits humains demandent au gouvernement de faire libérer le directeur des programmes de l'ACIDH, Boniface Umpula. À travers leur déclaration commune, 83 ONGDH qualifient d'illégal et d'arbitraire l'arrestation de leurs collègues depuis le 10 novembre sur ordre du procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi. Détenu jusqu'à présent au parquet, il est accusé des propagations de faux bruits et d'incitation à la désobéissance civique. Ces ONG recommande également au gouvernement de respecter ses promesses faites aux magistrats sur l'amélioration de leurs conditions de travail. La représentante du bureau de l'action contre l'impunité pour les droits de l'homme à Kinshasa explique les faits. Maître Nicole Audia est jointe par Jeff Ngoy.
Le syndicat des magistrats est en grève présentement. Le FINAMAG a fait un communiqué dans lequel il initiait une action de grève et dans lequel il rappelait les revendications d'il y a 2 ans pour l'amélioration des conditions de travail. Et c'est dans ce cadre de soutien de cette action-là que notre collègue Boniface Oumpoula est allé déposer une copie du communiqué au bureau du procureur à Lubumbashi. Et quand il l'a déposé, on l'a arrêté. Nous ne voyons pas le mal qu'il a fait parce que le communiqué et l'action de grève est connue par les autorités, même judiciaires, par les magistrats. Les défenseurs des droits de l'homme sur place font des démarches et nous, au niveau de Kinshasa, nous voyons comment appuyer ces actions-là.
Direction Bounia, près de 4 350 000 dollars américains seront investis dans le projet de développement dans le territoire de Mambasa, notamment la restauration de l'autorité de l'État, réhabilitation de routes et promotion du dialogue entre la population et la réserve à Fona Okapi. C'est le bureau local de Starek qui l'a confirmé hier à Bounia. Le projet est dénommé Amani Njiaya Maendeleo, va s'exécuter pendant 18 mois. Isaac Remoyope.
Ce projet du Starek a été présenté mardi aux différents partenaires dont s'est impliqué dans son exécution. Le point focal du Starek en province orientale, Jean-Marc Mazio, indique que ce projet vise le renforcement des capacités des PNC et la construction de certains bâtiments. Intervenir dans le cadre des dialogues, car Mambasa connaît beaucoup de problèmes autour des réserves, des ressources naturelles, des bois et autres, la réhabilitation de la route et l'autonomisation des femmes qui sont victimes de violences sexuelles et d'enlèvements pendant les attaques des rebelles. Pour la société civile des Mambasa, ce projet va contribuer à améliorer la situation sécuritaire de la région qui souffre des atrocités des rebelles Simba Maïmaï. Ce projet va également permettre de créer des emplois aux jeunes pour résorber le chômage dans la zone. De son côté, le député national Eli de Mambasa, Abdallah Penembaka, émet des réserves sur l'impact de ces projets. Il craint que les méandres de l'administration puissent engloutir plus de la moitié de ces fonds. Il recommande la transparence dans la gestion de ces fonds. Signalons que ce projet est financé par les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
À Kinshasa, la société civile se dit inquiète de la léthargie dans le processus de révision du code minier et la prise en otage de celui ici par le consultant international recruté à cet effet par le gouvernement congolais. Ce, avec la complicité de ce dernier et du projet d'appui au secteur minier. Dans un communiqué de presse publié mardi à Kinshasa, les organisations de la société civile impliquées dans les questions de la gouvernance des ressources naturelles exigent la finalisation de ce processus. Pour eux, le code minier actuel accorde plus d'avantages aux entreprises minières qu'à l'État congolais ainsi qu'aux populations locales. Michel Kifindangoy nous en parle.
Le processus de révision de l'actuel code minier a commencé en 2012. 10 ans après sa promulgation, la société civile et le gouvernement congolais ont estimé que ce code accordait beaucoup d'avantages aux entreprises minières au détriment de l'État congolais. Et pour preuve, malgré la croissance de la production minière au Katanga, la contribution de ces secteurs au budget de l'État demeure dérisoire, explique Maître Georges Bokundu, chef du bureau de Sarou en RDC.
Si ça n'entre pas en vigueur en 2014, on pourra adopter le code minier 2015 et que les dispositions révisées ne pourront entrer en vigueur qu'en 2025. Pendant ce temps, les miniers sont en train d'exploiter, ils peuvent même terminer les jugements et l'État congolais ne va pas bénéficier de ce qu'il pouvait attendre aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la finalisation de ce processus? Henri Mouya, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles.
L'enjeu autour du code minier n'est pas que national, ce qui fait que autour de petites questions ou d'intérêts, il peut se faire que le blocage se fait non seulement au niveau du gouvernement, mais que le gouvernement ça aussi sous certaines pressions que nous ne connaissons pas encore.
La société civile espère qu'avec la promulgation de la nouvelle législation minière, les dispositions en matière de l'assiette et du taux de 3,5% de la redevance minière soient immédiatement appliquées.
Terminons ce journal au Katanga. Il n'y a pas d'eau potable depuis 6 jours dans la cité de Mulongo. C'est dans le nord-est de Kamina. Information livrée ce matin par la société civile et confirmée par plusieurs sources locales. Cette organisation citoyenne demande aux autorités provinciales une aide d'urgence au bénéfice de plus de 100 000 habitants de cette cité. Les difficultés rencontrées par cette population avec Hippolyte Kalinga de la radio RCK Kamina.
Les 5 puits desservant la population de cette cité ne fonctionnent pas depuis plusieurs mois. Selon les sources locales, le dernier puits situé dans l'enceinte de l'hôpital général est inopérationnel depuis 6 jours. Pour le président de la société civile de Moulongo, une grande partie de la population de la localité de Moulongo consomme l'eau du lac Kabamba et du fleuve Congo. D'après lui, cette eau est impropre à la consommation. Ngoï Simbi dit craindre la propagation du choléra déjà dans ce milieu depuis plusieurs mois, mais aussi la contamination de la population d'autres maladies d'origine hydrique devenues permanente. Pour le médecin chef des zones de santé, ces problèmes d'eau touchent aussi l'hôpital général de Moulongo. Selon lui, les malades et les infirmiers dans cet hôpital ont manqué l'eau de boisson pendant 4 jours. D'après le docteur Jacques Kakoma, quelques-uns seulement ont été ravitaillés pour la seule journée d'hier grâce à une pompe aspirante installée dans un puits de l'hôpital. Il dit lancer une campagne de sensibilisation auprès de la population et dans les écoles. Objectif, leur demander de bouillir l'eau de boisson pendant cette période difficile. Kamina, Hippolyte Kalenga, Radio Communautaire de Katanga pour Radio Okapi.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.